On a entendu il y a quelques minutes l'avocat de la famille dire que les moyens qu'on accorde à la justice, c'est le vrai cœur du problème. Et tout à l'heure, on a entendu un autre son de cloche qu'on va évoquer maintenant en direct avec Adélaïde Malaveau. Elle est place du Capitole à Toulouse parce qu'on a entendu l'avocat de la mère de Rosa, cette petite fille dont la plainte n'a pas été prise en compte, fustiger lui les enquêteurs et les enquêteurs paresseux.
Oui, et ce qui transparaît de cette prise de la parole, c'est avant tout la culpabilité de la part de la mère de famille. Je vais vous la citer. C'est très dur pour moi d'être là. Je me dis que si je n'avais pas déménagé, ça aurait pu être ma fille. J'ai la culpabilité de ne pas avoir assez fait, de ne pas avoir été à la hauteur en tant que mère, en tant que victime. Avec son avocat, vous l'avez dit, ils ont souligné des alertes qui ont été données depuis des années. Cette volonté de renverser la table face à une justice dysfonctionnelle. Écoutez.
J'aimerais aussi dénoncer une autre réalité que je vois au quotidien, celle de magistrats qui travaillent quatre fois moins que leurs collègues, celle d'enquêteurs paresseux, des vrais fainéants, qui sont aussi à l'origine de ce drame humain et qui ont évidemment, quand je entends ce qui a été dit, hein, notamment le fait que, alors qu'elle appelait chaque semaine les enquêteurs pour savoir quand M. Barella allait être interpellé, qu'on lui dit « arrêtez, vous nous harcelez, on va déposer plainte contre vous », eh bien, il y a des fautes humaines derrière ce drame. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires, des enquêteurs et des magistrats qui sont totalement désinvestis, partisans du moindre effort, et ça aussi, ça doit être dénoncé.
Pour rappel, la première plainte pour viol de la petite Rosa date d'août 2025. La jeune fille avait alors subi une batterie de tests, d'examens psychologiques, gynécologiques. La mère de famille a ce matin expliqué qu'elle voulait de la justice pour les enfants. Ils doivent être protégés. Je veux que mes enfants soient protégés. L'avocat Maître de Buisson a quant à lui ajouté que dans son cabinet, à son échelle, il avait une dizaine de dossiers de viol qui n'avaient pas encore été traités. Vous l'avez entendu, il a fustigé des magistrats paresseux qui ne faisaient pas leur travail. Il a ensuite expliquer qu'il fallait rénover la justice pour que tout cela change.
Laïd Malaveau avec Nassim Gomri en direct de Toulouse pour BFM TV.
Maître, ce qui est intéressant quand même dans ce que dit l'avocat, c'est qu'effectivement, à la fois on fait des analyses sur la petite Rosa, on s'aperçoit qu'il y a des lésions vaginales, anales, observées sur son corps. On parle peut-être de plusieurs viols commis par Jérôme Barella, qui, rappelons-le, est présumé innocent et en détention provisoire. Il se passe rien. Et on a un gendarme qui reproche à la mère de Rosa d'appeler trop souvent. Ensuite, il y a ces parquets qui met du temps à se décider, qui doit faire l'enquête, qui doit... Bon, on a envie de lui donner un peu raison en disant est-ce qu'on travaille assez dans ces endroits ?
Alors, moi, je ne suis pas de là-bas, mais vous avez un avocat, et c'est ce que j'ai dit de la part de mon autre confrère tout à l'heure, qui visiblement est de Toulouse, qui connaît bien le barreau, qui doit être au contact, tout comme son autre confrère de policier, de gendarme, de magistrat, de greffier, et qui vient vous dire il y a aussi des feignants. On n'a pas de raison de ne pas le croire. Il faut l'entendre aussi, cette parole. Je pense qu'à un moment donné, quand même, et je le dis vraiment en tant que.
Le gendarme ne peut pas répondre ça à la mère d'une petite fille qui a été violée, quand même.
On a une maman qui vient de vous dire, ça arrive. Je veux dire, il n'y a pas de raison de pas la croire.
Ce gendarme est toujours en poste aujourd'hui ?
Je ne sais pas, mais s'il est toujours en poste, il va falloir...
Mais surtout qu'il y a les expertises.
Alors, c'est ça qui est incroyable. C'est que on sait très rapidement que cette petite fille a été violée. Voilà. Il y a un médecin qui vient nous dire que les lésions constatées correspondent aux faits dénoncés. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que cette petite a été violée.
Elle n'était pas assistée d'un avocat. C'est peut-être son tort. Voilà. Alors, elle a essayé seule, avec les expertises.
Elle a bien fait, cette maman. Elle est allée au commissariat, à la gendarmerie du coin. Elle est allée déposer plainte. On a pris sa plainte.
Elle a bien fait, mais elle n'a pas été entendue.
C'est l'après qui pose problème. Mais ça, je suis désolée de le
dire. Pardon, mais on parle beaucoup de M. Darmanin. Mais Laurent Nunez, c'est le ministre de ces gendarmes. Est-ce qu'il nous a donné une explication ?
Non. Alors, okay. Il est beaucoup quand même plus prudent. À décharge, on va quand même. Il a parlé tout à l'heure. Il a expliqué que ils avaient remonté des appels de cette maman, de la maman de Rosa, vers les brigades de gendarmerie.
Qui s'exprime pas très bien en français, qui est peut-être un élément qui a joué en sa défaveur aussi, Dominique Frizet.
C'était pas une raison pour la recevoir mal, bien sûr. Vous avez raison, la
mère. Non, mais ça peut jouer.
Et le ministre explique ensuite que les appels vers la brigade ont été remontés, mais que certains jours, la brigade est indisponible. Donc, les appels sont redirigés vers le COJ, c'est le centre opérationnel de la gendarmerie, qui est un autre endroit dans le département. Ces appels-là ne sont pas encore retracés, il faut les vérifier. Donc, c'est peut-être un jour où cette dame avait appelé le COJ, qu'on lui a répondu ça, mais je vois pas pourquoi cette dame inventerait un truc pareil.
Ah non.
Elle n'a aucune raison de l'inventer. Et on sait quand même que une femme qui se présente avec vous, maître, dans un commissariat ou un service de gendarmerie qui vient avec son avocate pour déposer plainte, je peux vous dire qu'on va pas la recevoir comme ça.
Donc on est mieux traité lorsqu'on est avec un avocat.
Alors évidemment. Si je peux me permettre, là, c'est l'après qui pose problème. Cette maman, elle fait ce qu'elle a à faire pour protéger son enfant. Sa fille lui parle.
Elle culpabilise, vous l'avez vu. Hein.
C'est terrible. Elle va à la gendarmerie ou au commissariat de police. Elle dépose plainte. Elle fait ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est l'après. Je ne sais pas si ça aurait changé les choses, si au moment de la plainte, elle avait été un avocat ou pas. Mais le truc, c'est après. Pourquoi on ne répond pas et pourquoi il ne se passe rien et pourquoi à cette maman,
est-ce qu'il y a pas un problème,
on ne lui dit ne serait-ce que la plainte a été transmise au parquet pour compétence.
Surtout, là, il y a aussi une autre question, c'est que cet homme a déjà été impliqué dans d'autres affaires. Alors certes, tout a été classé sans suite, mais il est inscrit otage.
Oui, bien sûr.
Il est donc son nom apparaît quelque part. Il a des antécédents judiciaires, donc il suffit de consulter, de se dire tiens, c'est quand même pas la première fois que son nom apparaît.
Ce qui est incroyable.
Dans des affaires d'agression sexuelle.
Je le dis, les policiers et les gendarmes savent très bien se connecter otage, et je le dis vraiment sans aucun problème. Ils savent très bien se connecter otage pour avoir
ça
des
prend
informations
du temps, c'est lent.
Sur n'importe qui. Et il y a des problèmes avec l'IGPN, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de policiers parfois qui se connectent otage alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Attention! On peut pas légalement se connecter otage pour savoir si le locataire qu'on va prendre a une mention.
Mais là, c'est pas ça.
Voilà. Donc, il faut que ça intervienne dans le cadre d'une procédure. Là, ce qui est incroyable, effectivement, je ne sais pas si ça a été fait, mais visiblement, ça ne l'a pas été. Sinon, peut-être que ce gendarme, je l'espère, se serait dit, oulala, parmi les urgences, celle-là est peut-être encore plus urgente parce qu'il a des mentions otages.
Florence Héroin-Léauté nous a rejoint, députée socialiste de la Seine-Maritime. Vous êtes secrétaire de la commission d'enquête sur les violences sexuelles incestueuses. Quand vous entendez tout ça, quelle est votre réaction ?
Que vous dire ? Que vous dire que nous n'ayons déjà découvert dans les commissions d'enquête successives qui se sont tenues, dans les missions d'information, dans les travaux de la Civise, dans les travaux des associations, les parlementaires, les professionnels, les associations savent tout ça. C'est bien pour ça qu'une proposition de loi intégrale a été déposée à l'automne dernier. Parce que c'est le fruit de tous ces travaux qui ont précédé ce drame de Liana. Et donc, le constat, c'est que à chaque fois qu'on a eu connu un drame dans notre pays, ces dernières années, on a produit une petite proposition de loi avec une mesurette. Force est de constater que ça ne produit pas d'effet. Bien
donc
sûr
c'est
que
pas
chaque
un problème
mesure,
de loi supplémentaire, c'est
chaque
plus
mesure
question,
est importante. C'est important quand on a voté pour que, quand les agresseurs sortent de prison, que la victime soit informée, qu'elle puisse avoir un téléphone grave danger, qu'elle puisse être protégée et informée, et que cet ado, Yanis, probablement, si ce protocole avait été mis en place, ne se serait pas suicidé. Bien sûr que ça, c'est important. Ça ne suffit pas à couvrir, depuis la prévention, jusqu'à la formation, jusqu'à la prise en charge, au déroulement de l'enquête, au traitement judiciaire.
C'est quoi ? C'est une question de moyens humains, de moyens financiers ?
Mais bien sûr qu'il y a des moyens qui sont
humains et
qui font défaut.
Humains,
financiers, de formation et de compréhension de ce dont on parle. Toutes ces mamans qui se présentent avec leurs enfants, qui ont cru la parole de leurs enfants, qui ne sont pas écoutés, pour lesquels derrière l'enquête ne se déclenche pas, pour lesquels derrière il n'y a pas d'instruction. 3% seulement des faits signalés aboutissent à une plainte. Et donc, il faut qu'on le mette, un, en priorité absolue. Deux, vous savez quel est le pourcentage des enquêteurs dans des commissariats de police et des gendarmeries qui sont formés au protocole NICHE, qui est ce protocole qui accompagne les auditions dans la salle Mélanie. La salle Mélanie, c'est ces salles dans lesquelles on auditionne les petits mineurs avec un protocole qui a pour objectif de ne pas polluer sa parole et d'avoir une valeur probante de ce qui va être recueilli. 1% de nos gendarmes et policiers sont formés à la méthode NICHE. C'est un problème.
Vous avez entendu Sébastien Lecornu cet après-midi à l'Assemblée qui s'est engagé pour les crimes contre les enfants que les actes d'enquête soient effectués dans un délai maximal de 3 mois. Il veut l'inscrire dans la loi, une loi qui serait débattue à partir de juillet.
Alors, on a effectivement dans la proposition de loi intégrale cette proposition d'avoir un protocole d'enquête.
Mais là, les protocoles, c'est bien, on en décide.
Avec un délai imparti.
Oui, mais derrière, si jamais, s'il n'y a pas les moyens.
Mais bien sûr qu'il faut des moyens. Depuis 10 ans, le nombre de plaintes a multiplié, j'imagine, vous l'avez dit à multiples reprises sur votre plateau, multiplié par 3, le nombre de plaintes. Bon, les moyens n'ont pas été multipliés par 3. On est toujours à la traîne. On a 4 fois moins de procureurs.
Il y a des pays comme l'Espagne qui sont assez en avance là-dessus, qui ont mis beaucoup d'argent
Mais l'Allemagne, aussi, l'Allemagne a un budget sur la justice deux fois plus important que le nôtre, à
deux fois
plus de juges.
Comment vous l'expliquez ça, que historiquement, en France, on consacre moins d'argent que nos voisins à la justice, même s'il faut le reconnaître, il y a eu un rattrapage sous la présidence d'Emmanuel Macron.
Alors vous me permettrez
d'avoir de vous le dire, mais peut-être un rattrapage aussi, parce qu'avant, la gauche qui était au pouvoir ne l'avait pas fait.
Alors, on a su créer un parquet spécialisé sur le terrorisme. Et d'ailleurs, on s'est interpellé et appréhendé tous les suspects du terrorisme pour qu'ils ne passent pas à l'acte. On le fait pas sur la pédocriminalité.
Pourquoi ?
Je pense qu'on a une piste parce qu'il y a des choses qu'on sait faire.
Mmh.
Et donc là, on a mis des moyens sous François Hollande.
Pourquoi on l'a pas fait ?
Maintenant, depuis Macron, il y a eu 3 milliards d'euros d'augmentation. C'est précisément ce que demande la proposition de loi intégrale. 3 milliards d'euros sur la table, maintenant, pas en 10 ans, pour renverser la tendance, pour enrayer
cette mécanique. Sauf qu'il y a beaucoup de priorités dans
la
justice. Il y a la lutte contre le narcotrafic.
Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire à la place. Mmh. Quand le ministre Darmanin dit, là, jusqu'au 14 juillet, ils vont instruire les 70 000 demandes.
Et les autres
regardez, on a créé un parquet national financier.
Qu'est-ce qu'on arrête de faire ?
On a créé un parquet national financier ou une autorité sur le contrôle de la vie publique avant de s'intéresser aux violences faites aux femmes et aux enfants, des données en priorité. Pourquoi ?
Pourquoi ? Par qui est-on dirigé ?
Par
les femmes et les enfants ? Non.
Par des hommes ?
Oui, monsieur.
Une volonté de ne pas agir. Ce ne sont pas seulement que des hommes, ce sont des hommes qui ne veulent pas agir, parce qu'il y a des hommes qui veulent bien.
Oui.
Mais ils ne sont pas au gouvernement.
Si c'était des femmes au pouvoir, ce serait aller plus vite, vous pensez ?
Si elles veulent,
le patriarcat, il y a une protection.
Si elles veulent, mais il faut de la volonté.
Il y a eu des femmes gardées sceaux, pardon.
Madame
Taubira a été gardée sceaux, Madame Belloubet a été gardée sceaux, et 70% des magistrats sont des femmes.
Enfin, vous avez vu les arbitrages qu'a pu perdre de manière successive la ministre Aurore Berger ?
Parce que ce sont
c'est
des hommes
qui lui disent non. C'est pas parce qu'elle est au gouvernement qu'elle gagne ?
Parce que ce sont des hommes qui lui disent non.
Ah. C'est quoi votre déduction ?
Non, ben je vous accuse.
Non, mais d'accord, mais ils lui disent non. Pourquoi intrinsèquement ?
Donc,
c'est parce que ce sont
courage,
des hommes, vous en avez autour.
Il faut de la volonté
non,
et
attendez. Vous avez des hommes autour de cette table qui sont aussi pères de famille et pour qui c'est une priorité. Pourquoi ceux-là, les politiques disent non alors ?
Parce que c'est pas une priorité pour eux.
Mais pourquoi c'est pas une priorité ?
Quand le ministre Darmanin dit ils n'ont pas fait ce que je leur ai demandé dans ma circulaire parce que je l'avais posé en priorité absolue. Deux lignes.
Pourtant, la procureure d'Auch, c'est une femme.
Deux lignes. Deux lignes dans une circulaire.
C'est pour ça que j'ai du mal à vous suivre.
Une circulaire de 5 pages. Vous avez une circulaire de 5 pages et au milieu, vous avez deux lignes sur la priorité à donner aux violences commises sur les mineurs. C'est pas une priorité.
Oui, mais là,
absolue.
J'ai du mal à vous suivre, pardon, sur la dénonciation du patriarcat sur ça, parce que je pense pas que les hommes soient moins insensibles que les femmes sur cette affaire. Et la procureure d'Auch est une femme. Les magistrats sont essentiellement des femmes aujourd'hui.
Bien sûr que si.
Bah alors pourquoi
ça aurait bougé depuis tout ce temps.
Donc l'explication, c'est uniquement parce que c'est Emmanuel Macron et pas une femme à l'Élysée.
Prioritairement, oui. Parce qu'il n'y a pas.
C'est un procès d'intention.
Il n'y a pas. C'est une réalité.
Donc Marine Le Pen à l'Élysée, ça serait mieux.
Non.
Je vais dans votre logique, Eva.
Elle a toujours
vous me dites
voté
que c'est parce que c'est
contre
pas des femmes.
Les femmes. Elle a toujours voté contre les femmes. Hein. On a ça de liste de tous les votes qu'elle a fait contre. Hein. Non, bien évidemment que le patriarcat, tel qu'il est vécu par notre gouvernement, par nos gouvernements successifs, n'en ont rien à battre des femmes. Sinon, ils auraient déjà mis de l'argent. Sinon, ils auraient déjà.
Mais le sort des enfants n'est pas seulement une question de sexe. C'est pas forcément.
Non, mais voyez bien que si, puisque ça n'a pas été fait.
Mais c'est une démonstration par l'absurde ce que vous faites, mais vous
donnez. Par l'absurde, par la réalité. Non,
moi, je vais vous dire dans la commission d'enquête inceste, dans la commission d'enquête sur l'inceste parental, dans la majorité et la très grande majorité des cas, ce sont des hommes qui qui portent atteinte sexuellement aux enfants et dans le cercle familial, hein, parce qu'on parle là des violences faites aux enfants, mais 80% ont lieu dans le cercle familial. Ne l'oublions jamais. Moi, j'ai vu des hommes très mobilisés. Enfin, je ne veux pas nous opposer les uns les autres, ce n'est pas mon propos.
Ah bah quand même.
Mais on est dans quelque chose de séculaire. Bah, je suis désolée, c'est quelque chose de séculaire. C'est quelque chose qui remonte au Moyen-Âge, que cette atteinte aux enfants. C'est la perception qu'a la société adulte de ce qu'est un enfant, de ce dont il a besoin, et au titre de ses besoins fondamentaux, pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, ce que chaque parent veut.
Bah justement, puisque vous
le point cardinal. Non, mais je veux le dire, c'est la sécurité. Et la sécurité, eh ben, elle ne peut pas souffrir de ces délais d'instruction, de ces délais d'enquête, de cette poussière mise sous le tapis et de ces dossiers qui traînent 70 000 dans nos territoires. Donc, il y a un renversement à faire. C'est ça qu'appelle la proposition de loi intégrale.
Justement, puisque vous êtes député, on va aller à l'Assemblée nationale retrouver notre journaliste Edgar Becquet, parce qu'il y a eu une passe d'armes politique. entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et Marine Le Pen.
Oui, séance de questions au gouvernement extrêmement houleuse et exclusivement consacrée à l'affaire Liana. 12 questions sur 17 sur cette affaire, c'est extrêmement rare. C'est surtout Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui a répondu aux députés. Mais le chef du gouvernement s'est lui aussi exprimé. Il a répondu à une question posée par Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui dit que Liana a été sacrifiée sur l'autel de la nonchalance. Les mots sont très forts. Sébastien Lecornu lui a répondu et dans sa réponse le Premier ministre a formulé plusieurs propositions, des propositions qui seront intégrées au projet de loi sur la protection de l'enfance comme l'alourdissement des peines pour les violeurs en série. Je vous propose justement de revivre cet échange entre Marine Le Pen et Sébastien Lecornu.
Le chagrin du peuple français en écho à celui de sa famille et de ses proches à l'annonce de la mort de Liana, 11 ans. Assassiné par un homme déjà connu comme pédophile, un prédateur identifié, mais jamais interpellé, jamais neutralisé, a laissé place à la colère et elle est justifiée. Cette petite fille a été sacrifiée sur l'autel de la nonchalance d'un État dont l'appareil judiciaire a failli.
Nous devons la vérité au peuple français sur ce qui s'est passé dans cette affaire. Et donc c'est le sens de la saisine des inspections, éducation nationale, justice intérieure, qui devra, il faut bien le reconnaître, expliquer l'inexplicable et rendre compréhensible ce qui semble incompréhensible.
Voilà le chef du gouvernement qui évoque aussi une date, le 19 juin. C'est le jour où les inspecteurs généraux rendront leurs conclusions sur les défaillances qui ont eu lieu dans l'affaire Liana, des conclusions qui seront rendues publiques.